Je vais mo donc modérer la dernière séance plénière de cette journée fort passionnante, intitulée Les micro-sociétés, l'élitisme, la marginalité. Alors, parmi les deux intervenants, il y a M. Patrick Mignon, qui est sociologue à l'INSEP à Paris, et M. Makis Chamalidis, qui est rattaché au centre d'entraînement de Roland-Garros, psychologue. Alors, on va commencer tout de suite par M. Mignon. Donc, ça va se dérouler de la façon suivante. Chaque intervenant va faire sa présentation pendant 20-25 minutes. Et ensuite, effectivement, on donnera un petit peu de temps au public. Alors, l'intervention de M. Mignon, vivre dans le petit monde du sport d'élite. À vous.
Bien, merci. Bonne fin de journée à tous. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de venir à cette, enfin pour la deuxième première conférence de psychopathologie du sport, la deuxième fois dans un rôle plus important cette fois-ci que la première, comme conférencier pour la séance finale. Donc c'est un grand honneur, j'espère que j'en serai digne. Je suis aussi en fin de journée après qu'un certain nombre de personnes aient parlé, surtout des personne de ma discipline, sociologue ou en tout cas proche, historien. Et d'une certaine façon, je souhaite aussi mettre cette intervention dans le, je dirais, dans cette, un peu dans la continuité. Par exemple, bon, il est vrai que je retiens de ce qu'a François Dubé a développé ce matin, disons, la volonté, en quelque sorte, de normaliser le sport. Hein, ce dont on, lorsqu'on s'interroge sur les maux du sport, la pathologie du sport, c'est peut-être un vice sociologique, mais il y a toujours un peu cette idée de dire que finalement, on n'a peut-être pas toujours besoin de s'attarder sur la spécificité du sport ou de cette activité, mais beaucoup plus de voir en quoi elle est semblable à beaucoup d'autres activités. Ça, voilà un point que je partage. En tout cas, bon, j'espère le faire passer et que vous ne l'oubliez pas dans mon raisonnement, même si je parlerai plutôt du sport. Je pense aussi tout à l'heure, par exemple, à ce que disait André Roche ce matin à propos de la... Tout ce qu'il évoquait de cette tension entre les deux perceptions du sport dans la société, je dirais à la fois comme un élément de santé et puis comme un élément de mise en cause de la santé. Et c'est aussi, bon, peut-être un peu moins net dans mon propos, mais il est certain que ce qui nous réunit aujourd'hui traduit un mouvement dans la prise en considération du sport. C'est-à-dire, en gros, dans les années 90, il y a effectivement une manière systématique qui consiste à interroger le sport de haut niveau, le sport d'élite, tel qu'il fonctionne. C'est-à-dire avant cette date, on a bien des discours, des philosophies qui s'intéressent au sport de haut niveau, mais pas nécessairement, je dirais, d'interrogations croisées qui impliquent aussi bien des disciplines, sociologie, médecine, etc., que l'administration publique. Hein. Et donc, de quelque sorte, le sport de haut niveau est devenu un problème social. C'est-à-dire quelque chose qui, voilà, qui pose question à la société parce que elle... Il pose la question, ben, de prendre des limites hein, qu'une société peut se donner dans le comportement des individus. Et je retiendrai aussi de Marc Auriacombe le fait que, on parle de pathologie, on parle, et quand on parle du sport, on en parle beaucoup, on parle des risques d'une pratique, mais que je retiens de son propos, en partie, finalement, que la pathologie est rare. C'est-à-dire, on s'intéresse à du petit nombre. Alors, du petit nombre dans un petit monde, c'est une des caractères, enfin, ça sera un des cadres de mon propos. Alors, bon, voilà, la société, qu'est-ce que c'est que la société? C'est finalement tout un ensemble de sphères d'activités qui sont plus ou moins autonomes les unes des autres, c'est-à-dire qui s'occupent toutes de quelque chose de spécifique, qui s'intéresse à des biens spécifiques. La politique, c'est le pouvoir. La religion, c'est les biens pour gagner l'au-delà, l'économie, c'est les échanges. Ces sphères peuvent être légales ou illégales. Il y a un monde de l'illégalité dans le jeu, dans le trafic, dans le crime organisé, qui fonctionne aussi selon ses propres finalités. Et donc le sport en est un. Hein, et donc on a dans ces univers des gens qui produisent toutes les activités caractéristiques de ce domaine, la compétition pour le sport, la compétition, les règles du jeu, la valorisation de l'activité. Ce qui veut dire qu'on a une société qui est une société de pluralité de systèmes normatifs. Hein. C'est une des difficultés. Ce qui va être la norme, en gros, sociale, du sens commun, va être confronté à la normalité que chacune de ces sphères d'activité développe, parce que chacune de ces sphères a ses critères d'excellence. La caractéristique de toutes ces activités, c'est qu'il y a des positions supérieures, des positions hautes dans chacune de ces sphères d'activité. Système normatif, ce sont toutes les conduites qui sont prescrites. Ça ne veut pas dire qu'elles sont obéies, mais elles sont prescrites. Censées permettre de réaliser les valeurs caractéristiques, les valeurs d'excellence de cette activité. Donc en conséquence, chaque sphère d'activité définit sa propre normalité, qui peut apparaître tout à fait choquante, déviante, anormale par rapport aux autres ordres normatifs, que chaque sphère détecte et sélectionne les talents qui sont adéquats aux valeurs qu'elle met en avant, que chaque sphère constitue, produit sa propre élite, et dernier point, qu'elle occupe une place plus ou moins valorisée dans la société, et pour le sport c'est important, parce qu'une partie, je dirais en quelque sorte des questions qu'on se pose sur le sport, tient au fait que ça reste une activité qui, par rapport à d'autres, est dévalorisée. Donc mon propos, c'est de décrire un petit peu ces quelques processus de sélection de cette élite et des implications de constitution d'une élite sportive, avec souci de relativisation, de comparaison. Avant de travailler sur le sport, je travaillais sur la musique. Donc, beaucoup de choses qu'on voit dans le sport sont des phénomènes qu'on pouvait constater, par exemple, dans la pratique musicale, dans la recherche de la célébrité musicale. J'ai eu le temps de travailler sur la drogue, pas le dopage, mais la drogue, donc où on voit effectivement aussi un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas sans rapport avec ceux qu'on peut observer dans le sport. Sur l'armée, notamment sur, pour un temps très court, mais tout à fait intéressant pour travailler sur certaines des unités d'élite de l'armée. Donc tout ça permet de relativiser le sport, de montrer qu'en fait un certain nombre d'éléments sont communs à différents univers. Et c'était dit ce matin, je pense que ça sera redit par Makis, mais il l'a dit dans une de ses interviews, tous les secteurs d'élite sont concernés par ces questions. Et puis, pour terminer, j'essaierai de voir un petit peu quelques points concernant éventuellement les réflexions sur la régulation de ces phénomènes. Alors, l'élite, c'est quoi ? L'élite, c'est quoi ? Effectivement, c'est un petit monde. Pourquoi ? Parce que si on compte aujourd'hui les gens qui sont concernés par, si on veut, le plus haut niveau sportif, on dira, vous savez, il y a à peu près 6 000 personnes sur la liste de haut niveau en France, on a 4 000 professionnels, ça nous fait 10 000 individus, on va compter là-dedans ceux qui sont dans les filières, ça va nous faire 15 000, 20 000 personnes, disons, comme ça en arrondissant. Par rapport aux pratiquants sportifs, c'est pas beaucoup. Si on ajoute à ça les entraîneurs considérés comme étant de haut niveau, les préparateurs physiques, préparateurs mentaux spécialisés, les gens qui travaillent sur la question, qui s'occupent de l'élite, ça nous fait vraiment un tout petit monde. Et en fait, beaucoup moins encore si on s'intéresse vraiment à l'élite. C'est-à-dire si on prend dans le haut niveau ceux qui sont sur les listes élites, c'est-à-dire ceux, effectivement, qui ont participé ou qui vont participer à championnat du monde, Jeux olympiques. Si on prend au foot ou au rugby, ceux qui ont des chances de participer aux grands événements caractéristiques des foot ou du rugby, c'est-à-dire Coupe du monde, championnat d'Europe, ou jouer dans les clubs italiens, anglais, espagnols, qui sont ceux qui drainent les meilleurs talents. Donc ça nous réduit encore un petit peu plus cette élite. Bon, en même temps, il est vrai que, ça a été dit ce matin aussi, les phénomènes liés à la promotion d'une élite concernent aussi la pratique de masse. C'est-à-dire que dans la pratique de masse, la pratique de tous les niveaux sportifs, quel que soit le sport, des processus qu'on voit à l'œuvre dans le sport d'élite, parce que c'est très visible, par exemple médiatiquement, sont aussi repérables dans des pratiques moins élevées, moins exigeantes que celles du sport d'élite. Pour un sport d'élite, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir une technique qui est intrinsèque de l'activité, les habiletés nécessaires, il faut manier éventuellement les technologies qui vont avec cette activité. Brissonneau, Christophe, tout à l'heure, parlait de l'usage des médicaments et des produits dopants. Ça peut faire partie du bagage des technologies qu'on est amené à apprendre lorsqu'on rentre dans une carrière dans l'élite. Ce sont aussi des qualités non pas, je dirais, liées à la détention de techniques propres à l'activité, mais des capacités plus générales, par exemple, d'agir sur soi, contrôler ses émotions, savoir aborder une compétition, de contrôle sur les autres, les adversaires, mais aussi l'environnement. Donc, je dirais, ce qui définit une élite, lorsqu'on les prend, alors aussi bien en sport qu'en d'autres domaines, c'est effectivement toute une série de savoir-faire, qui sont des savoir-faire à la fois qui vont agir sur la matière, sur les éléments, mais aussi agir sur la matière humaine, sur les interactions. Cette élite, alors, du coup, ça veut dire qu'elle est capable de faire face à la concurrence, dans le sport, bien évidemment, à la situation de compétition, que du coup, les qualités d'agressivité sont très importantes, que la concentration est très importante aussi, et justement, c'est capable de travailler sur soi, d'oublier le monde extérieur, capable de supporter la solitude. On évoquait le coureur qui s'entraîne tout seul, ça peut être le coureur de fond, ça peut être le cycliste, etc., mais ça peut être aussi le nageur, hein. Toute une série de sports suppose qu'on fasse effectivement, soit capable de travailler seul. La confiance en soi, hein. Quand je dis maîtrise de soi et de l'interaction, c'est un élément important. Donc en fait, une application routinière de techniques qui sont apprises, pour être appliquées en toutes circonstances, mais qui sont effectivement des pratiques qui, pour une élite, sont effectivement des pratiques à un niveau que le commun des mortels ne peut pas atteindre. En ça, effectivement, on est dans un monde extraordinaire, on fait des choses que personne ne peut faire. Et puis ces techniques, elles ont un effet de renforcement, c'est-à-dire que si on gagne, on démoralise l'adversaire, par exemple, et on valorise socialement et économiquement son activité. Donc je dirais là encore, hein, c'est pas très très différent, j'ai lu un article récemment sur la comparaison entre les tueurs à gages et le monde intellectuel. Il mettait en évidence que ces qualités de contrôle de l'environnement, de contrôle sur soi et de contrôle des autres sont des qualités qui sont les mêmes chez un professeur ou un très grand savant et chez un tueur à gages. Voilà, il y a un élément létal qui n'existe pas dans un cas, mais les qualités nécessaires qui définissent l'élite sont présentes. Alors, concernant la question finalement des effets, hein, de cette sélection d'une élite. Alors, on pourrait dire, qu'est-ce qui nous inquiète dans l'affaire? Qu'est-ce qui nous fait problème? Ce qui nous fait problème, c'est qu'effectivement, on a l'impression que cette élite se comporte beaucoup plus mal que le commun des mortels. Et on considère que c'est cette pratique qui a généré chez eux ces comportements qu'on condamne. Alors, c'est soit des comportements internes à l'activité, par exemple se doper, tricher, soit des comportements extérieurs, être violent, battre sa femme, avoir des consommations abusives de produits, etc. Donc c'est une façon, c'est que cette pratique d'élite risque de faire rentrer dans un processus de marginalisation, au sens où les gens qui dévient, qui ne sont pas conformes à la norme, sont menacés de devenir des marginaux. Alors, qu'est-ce que c'est que la normalité dans un univers d'élite? En général, ce n'est pas le fait, quand on en parle, d'être non conforme, c'est-à-dire de ne pas respecter les règles du jeu. Dans la société, le non conforme ne respecte pas les règles du jeu. Dans le domaine sportif et dans le domaine, je dirais, des élites, c'est au contraire de très très bien appliquer les normes du milieu. Donc, ce qui veut dire que si on va parler de déviance, par exemple, dans ce cas-là, on parlera d'une déviance qui est liée à une surconformité. C'est-à-dire une acceptation non critique des normes du milieu. Je précise dans cette affaire, pour revenir aux propos de Marc Auriacombe ce matin, que c'est une représentation assez courante dans la société de la déviance, qui montre qu'effectivement, globalement, un univers social, même extraordinaire, produit effectivement cette surconformité, donc des comportements déviants par rapport à l'application de la norme, mais que le commun des pratiquants dans cette activité ont les comportements les plus conformes à ce que, je dirais, la morale commune pourrait leur opposer. Donc le non-conforme, par exemple, il n'est pas sélectionné, hein, il disparaît. Donc par exemple, si on prend des exemples de sportifs non-conformes, alors je pense à Garrincha hier à la télévision, dont tu as vu le reportage, on pense à Maradona, oui, non-conforme peut-être par rapport à certains aspects, mais surtout très très conforme par rapport à des attentes vis-à-vis de ce que c'est qu'être un footballeur au Brésil ou en Argentine, et par rapport à ce que c'est que de posséder les techniques de très très haut niveau. Alors, Marc Lévêque évoquait l'idéologie cet après-midi. J'en ferai aussi un usage en évoquant un petit peu les normes qui gouvernent, et qui seraient ces normes, justement, via lesquelles on serait surconforme. Dans un sens, j'irais peut-être moins précis et moins cohérent que ce qu'il proposait, en disant finalement que il en est de l'idéologie sportive, il en est de l'idéologie en général. Par exemple, quand on dit idéologie moderne, comme l'évoquait ce matin François Dubay, c'est des prescriptions, oui, c'est des horizons. Mais je veux dire, quels sont les moyens d'une société à ordre normatif pluriel de pouvoir appliquer effectivement ces normes, hein. Donc on a bien des idéologies, c'est-à-dire des choses, un paquet comme ça de normes et de valeurs qui fonctionnent, qui se promènent, auxquelles on peut se référer, mais qui vont donner lieu à des habillages plus ou moins systématiques et plus ou moins cohérents et qui vont s'appliquer. Alors c'est vrai que dans le domaine du sport, on peut comme ça repérer des thématiques. On peut repérer la thématique du sacrifice. C'est-à-dire, bon, ça fait partie du langage courant, on se sacrifie. Pour le sport, pour le groupe, on paie le prix, hein, payer le prix, bon, ça c'est quelque chose qui est important. Alors donc on pense aux copains, on les abandonne pas, on se dépasse, on s'améliore. Si on perd, c'est pour gagner la fois suivante. On vise le sommet, on accepte les risques, donc on est toujours courageux, on accepte les défis, on est exemplaire dans son acceptation des défis, on refuse les limites, on a un rêve. Hein. Tout est possible parce qu'on a ce rêve. Alors, par exemple, dans le sport américain, qui est une sorte de quintessence hein, de l'application de ce principe, l'univers français rajoutera, par exemple, l'humanisme, l'accomplissement. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans l'affaire? Ce qui est vrai, c'est le discours radical de l'entraîneur américain qui vous dit, les gars, fallait... t'es malade, c'est pas grave, faut y aller, j'ai besoin de toi, etc. Et j'y vais parce que je veux rester dans le coup. Ou bien est-ce que c'est le discours de l'humaniste, de l'entraîneur français qui dit, non, je suis humaniste, je vise l'accomplissement de mon athlète. Bon, ça, c'est des éléments idéologiques. Et après, on a effectivement ce qu'est la réalité hein, de la pratique d'entraînement et de la relation sociale. Mais toujours est-il qu'on est dans effectivement un univers dans lequel on peut considérer que les gens croient plus ou moins à ces valeurs, les appliquent plus ou moins, mais qui suppose effectivement toutes que l'on s'engage de manière déterminée dans cette activité. Donc, me semble-t-il, une notion importante à retenir lorsqu'on parle d'entrer dans l'élite, c'est effectivement le cheminement, qui est le cheminement d'engagement, qui est la traduction d'un terme anglais, qui est « commitment hein, », donc qui désigne, si vous voulez, cette préoccupation de faire bien les choses, d'être dans le coup, d'être attaché à l'accomplissement d'une tâche. Donc c'est un processus qui va effectivement partir, par exemple, de ce qu'on constate à peu près dans tous les discours qu'on peut avoir, de sportifs, c'est-à-dire de gens qui vont dire « je voulais être alors X ou Y ». Un jour, j'ai vu... mon père m'a emmené, etc. Bon, qui sont très souvent les motifs d'entrée. Hein. Quelquefois, il peut dire m'a obligé, peut-être, mais mon père m'a emmené, il m'a proposé d'aller faire telle ou telle activité, qu'on peut continuer ou pas, c'était vu ce matin, on peut continuer à fumer des cigarettes, on peut s'arrêter, donc rien ne garantit que cette incitation donnera lieu à quelque chose. L'engagement démarre lorsque, effectivement, on prolonge cette activité. Alors, cette activité est un choix? Est-ce qu'elle est liée, par exemple, aux relations avec la famille? Est-ce que là-dedans, il y a une question de pari, par exemple hein? Comment comprendre le fait que quelqu'un abandonne tout pour faire quelque chose dans lequel les places sont rares? C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans d'autres activités. Il y a des paris à faire, notamment quand on n'a rien. Il faut faire quelquefois des paris pour avoir beaucoup. Il y a tous ces éléments qui sont à discuter et interroger. Il y a des processus tout bêtes, tout routiniers. Je veux dire, les gens font des choses extraordinaires, mais ils ne font pas les choses extraordinaires d'un seul coup. En général, ils font des choses extraordinaires parce que petit à petit, ils font monter le niveau à travers leur entraînement, à travers les épreuves qu'ils subissent. Et finalement, ce qui n'était pas possible à un certain moment devient possible parce que j'ai passé toutes les petites étapes qui me permettaient de faire la chose qui est impossible. Hein donc, d'une manière, la normale devient quelque chose de parfaitement normal. Si j'ai fait tel temps sur telle distance, faire un peu moins sur cette distance n'est plus impossible. C'est quelque chose qui est à ma portée. Hein. Alors, moyennant quoi? Moyennant que j'applique effectivement ce que j'ai bien appris à l'entraînement, que j'accepte de faire la discipline que je me suis donnée ou qu'on m'a proposé de suivre ou qu'on m'a imposé. Là, ici, on a différents cas de figure. Donc, en gros, on va passer, en fait, un petit peu à des cheminements qui vont être de l'ordre peut-être du choix d'une activité à ce qu'on appelle dans la dépendance au chemin accompli. C'est-à-dire qu'on va s'engager parce qu'effectivement, on va apprendre à faire des choses, et apprendre à faire des choses vont par exemple signifier que maintenant on ne peut plus revenir en arrière. Alors parce que pour faire ces choses-là, il a fallu par exemple que je signe un contrat, donc on ne va pas dénoncer un contrat. J'ai investi de l'argent, donc je vais réfléchir à effectivement ce que j'ai investi. J'ai brûlé des vaisseaux. Il y a des choses que j'ai arrêté l'école. Si j'ai arrêté l'école, il faut bien que je continue dans cette activité, etc. etc. Et puis j'entends un style de vie. Je vais rencontrer des gens, je vais partager un certain style de vie, alors le rythme d'entraînement, les voyages, etc., les amitiés, toute une série de choses, le respect qu'on va m'accorder, etc., etc. Enfin, des choses qu'on a à peu près tous évoquées plus ou moins selon nos disciplines dans toute la journée et qui constituent l'entrée dans cette élite. Mais ce que ça va traduire, c'est effectivement une organisation très spécifique du temps, de l'énergie que l'on va dépenser et du style de vie qu'on va adopter. Quand je dis style de vie, c'est à la fois des éléments, je dirais, de sociabilité et des éléments d'hygiène de vie que l'on va adopter, c'est-à-dire des arbitrages qui vont être faits entre ce que je dois faire pour être en forme, pour pouvoir me livrer convenablement à mon activité, et dans lesquels je vais arbitrer par rapport, par exemple, à ma famille, y être ou ne pas y être, à mes sorties, boire des coups, participer à des parties, etc., auxquels je vais effectivement opposer, compléter par qu'est-ce que ça m'a coûté pour en arriver là, et qu'est-ce que je veux, effectivement, si je veux passer la barre au-dessus dans l'activité que j'ai choisie. Ici, c'est un exemple sur le triathlon, par exemple, bon, qui permettait d'illustrer, dans mon expérience, d'illustrer ce propos. Alors, à partir de là, ben, effectivement, quand on fait cheminement, on rentre bien dans une bulle, parce qu'on est dans un univers dans lequel on a créé des liens. Ces liens unissent effectivement ceux qui ont participé aux épreuves. Et l'élite, c'est des gens qui ont subi des épreuves, qui les ont faites avec succès. Donc je participe à un groupe, et en participant à un groupe, ben, je me sépare d'autres groupes. Ces groupes, ben, c'est ceux qui ne me comprennent pas, qui ne comprennent pas pourquoi je fais cette activité. Quel sens ça a de faire ce que vous faites ? Hein, d'ailleurs, on n'aime pas vous, on dit quel sens ça a à faire ce qu'il fait. Voilà. Le mépris, éventuellement, hein, parce que le sportif n'est pas à l'abri du mépris, un peu moins maintenant, mais il l'a fortement été. Éventuellement, sous ces incompréhensions de mépris, ce sont des phénomènes aussi qui renforcent la solidarité entre les membres du groupe. Cette bulle, bah, ma foi, je vais y rester pour plein de raisons, parce que donc je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai brûlé des vaisseaux, parce que ça me permet de gagner de l'argent éventuellement, c'est peut-être pas un salaire, mais ça me permet de gagner de l'argent, puisque ce que j'en gagnais, ce que j'espérais, il y a le mode de vie, l'identité, je suis un athlète, je suis reconnu en tant que tel, peut-être pas partout, bah, un peu selon mes succès, en tout cas dans le milieu dans lequel je suis reconnu, j'ai une place qui m'est affectée, donc c'est quelque chose que je ne veux pas quitter, parce qu'en plus j'aime bien l'activité que je fais, donc on a toute cette articulation entre des motifs comme ça, de statut social et de plaisir pris à l'activité. D'autant plus que les dispositifs vont éventuellement renforcer ces processus de différentes manières. Et là, on rentre dans les effets pervers de la bulle. C'est-à-dire que la bulle, à la fois, c'est celle qu'on crée parce qu'on se retrouve entre les gens qui respirent un peu le même air, un peu rarifié d'être au sommet, mais en même temps, c'est aussi un dispositif qui peut être mis en place. Le dispositif, c'est comment un club fonctionne, comment un État met en place une politique de sélection et d'organisation de formation de ses talents. Comment les personnes exercent leur activité dans le cadre de ce dispositif. Et par exemple, bon, ces dispositifs créent du lien. Si vous êtes sur le campus de l'INSEP au mois de novembre, c'est une manière, vous avez un lien obligé avec ceux qui sont au mois de novembre à l'INSEP, parce qu'il fait gris, parce que les autobus sont rares et que, bon, d'une certaine façon, le soir, vous les passez avec ceux qui sont à l'INSEP. Donc ça, c'est, vous créez un lien par le territoire. Mais en même temps, vous êtes avec des gens qui servent une autorité. Cette autorité, c'est le savoir. C'est l'entraîneur à un savoir que vous n'avez pas. Il y a aussi éventuellement un sexe. Si vous êtes une femme et si c'est un homme, ils vont jouer à ce moment-là les hiérarchies et les autorités liées à la différence de sexe. Puis un âge. En général, l'entraîneur est vieux, vous êtes jeune. Et du coup, bon, il y a un système de gestion, hein, finalement, dans cette bulle. À travers des techniques, parce que l'entraîneur est un expert aussi. L'élite se manipule, se contrôle et manipule son environnement et les autres. Mais bien évidemment, l'entraîneur expert est aussi quelqu'un qui a des techniques de contrôle de lui et des contrôles des autres. Hein. Donc on peut effectivement, quand on analyse les entraîneurs, et en toute référence à l'humanisme mis à part, il y a des techniques par lesquelles l'entraîneur contrôle ces individus ou ces groupes. Il va effectivement créer une situation peut-être favorable à la performance, mais en même temps qui va renforcer l'effet de bulle en créant des individus qui auront du mal à l'extérieur à trouver leur repère. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme exemple pour créer ce contrôle? Ça peut être la mise en concurrence. Tu fais ou tu sors. Non, je ne veux pas sortir parce que je suis bien, donc je fais. Produire de l'incertitude, c'est un peu la même chose. Tu seras ou tu ne seras pas dans le... Hein, je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Il faut faire ça. Bon. Je t'aime ou je t'aime pas. Hein, à la fois, ça peut être très technique, et puis ça peut être aussi quelque chose de l'ordre affectif. Je t'aime ou je t'aime pas. On prend tout en charge. Je ne dois rien. Les taxis, les déplacements, les machins comme ça. Bon, qu'est-ce que je fais quand je suis dehors? Je ne sais plus prendre un taxi, je ne sais plus m'occuper de mes affaires, je ne sais plus gérer mon argent, etc., pour peu qu'il y ait dans l'affaire. Bon, voilà. Tout ça sont les éléments qui constituent en fait des sortes de gestion de cette bulle et qui mettent, effectivement, par plein d'aspects, l'élite en dehors un petit peu de ce que c'est que la vie ordinaire. Alors, ça produit quoi? système, ça produit, ben, comme on dit, de l'ivresse, hein, l'ivresse, l'ivresse des auteurs. Je suis quelqu'un d'important, donc on dira oui, alors c'est la frime, c'est la manière de se coiffer, la manière, les, tous les trucs là, les choses qu'on dépense quand on a les premiers gains. C'est j'ai le style de vie en tant qu'athlète, l'entraînement, puis c'est le style de vie à côté. On peut sortir. Hein, Emmanuel Petit, là, j'ai pas lu son bouquin, mais j'ai vu qu'il disait, dans le résumé, il disait bah, que dans le fait d'être dans cette élite de l'équipe de France, il y avait des éléments de sortie, hein, de grande vie, hein, comme on dit, mener la vie. Bon. Et puis, il y a aussi toutes ces techniques. Bon, j'ai dit contrôle de soi. On évoquait le perfectionnisme ce matin. M. Perrou évoquait le perfectionnisme. Le perfectionnisme, on peut en faire une vertu psychologique, on peut en faire aussi, je dirais, un construit sociologique. Mais le perfectionnisme, par exemple, c'est ce qui va effectivement vous amener à faire les choses le mieux possible. Et ça a une efficacité d'être perfectionniste. En même temps, le perfectionnisme, c'est aussi quelque chose qui pousse vers du côté de l'intransigeance, du côté du rigorisme. Hein, parce que où arrête ça, ce perfectionnisme? Dans l'accomplissement de mon geste? Dans le régime alimentaire que je vais suivre? Dans les gens que je vais fréquenter, etc., qui ne vont pas mettre en danger cette stabilité que j'ai trouvée, qui vont menacer l'espèce de certitude et d'équilibre que j'ai trouvé pour ma performance, et qui risqueraient, si jamais je rompais cet équilibre, de casser quelque chose. Donc on arrive, sous les, un petit peu, à un point qui a été évoqué à plusieurs fois ce matin, c'est qu'on passe, disons, à un engagement qui peut être lié, par exemple, au plaisir, mais qui va se transformer, se donner lieu à des formes de contrôle extrême de soi, pour pouvoir arriver à non seulement maintenir le plaisir de l'activité, mais aussi maintenir le plaisir de la présence dans le groupe de l'élite auquel j'appartiens. Donc avec effectivement des cas qui pourraient, là je prends des exemples, hein, que j'ai eu l'occasion de voir récemment, mais qui sont du côté de la peur de la contamination, on pourrait dire ça, c'est-à-dire fréquenter le monde extérieur, c'est risquer d'être contaminé. Alors, contaminé par le mode de vie délétère du monde extérieur. Hein. Ils fument, ils boivent, etc. Et ça, c'est pas bon pour mon régime. Hein. Donc, il faut que je reste. Donc, avec les autres, ceux qui vivent comme moi. Hein. Donc, du coup, on a un petit peu cet effet de renforcement qui est qu'il y a une tendance, alors, tout en rappelant que la courbe en U de la déviance ne concerne que le petit bout de la courbe, hein, ne concerne pas la totalité des athlètes, je tiens à le préciser tout de suite, mais qu'on a effectivement cette tendance ou ce risque du fait de vivre dans un seul monde. Et ça se traduit par les choix que les gens vont être amenés à faire. C'est-à-dire, je fais des études ou je ne fais pas d'études? Si j'en fais, je les fais, alors je prends le cas de l'INSEP, je les fais à l'INSEP, ou bien dans le centre de formation, sur la formation de foot, fait qu'il y a des cours au lycée, ou qu'on vient faire les cours, etc. Ou bien est-ce que je dis non, je les fais dehors. Je prends mon engagement ailleurs, je fais mes études ailleurs. Bon. Donc il faut lutter pour ça, il faut lutter contre l'entraîneur, c'est pas évident, il faut lutter contre le temps. Bon. Est-ce que je vis avec des sportifs? Est-ce que je vis avec des sportifs du même sport? Ou est-ce que j'ai une double vie? Je vis avec des sportifs parce que c'est mon monde professionnel. Nous vivons avec nos collègues de travail, nous vivons avec eux. Certains d'entre vous, peut-être, passent l'ensemble de leur vie avec des gens qui sont comme eux, le même métier. Bon. Mais beaucoup de gens aussi vivent une autre vie avec d'autres gens qui font d'autres métiers, parce qu'ils trouvent que le monde extérieur existe et que c'est mieux. Donc c'est pas seulement un défaut sportif, c'est disons, les inconvénients de vivre dans un air raréfié et fort et de penser que si on va ailleurs, on risque d'être contaminé. Alors, les stars, elles aussi vivent dans des mondes extraordinaires. Hein, j'évoquais tout à l'heure Emmanuel, c'est les références à la vie que menait Emmanuel Petit quand il était au sommet de sa carrière. Mais effectivement, les stars vivent aussi dans un autre monde un peu rarifié, qui est le monde de la célébrité. Hein, à partir du moment où un joueur de football d'un certain niveau devient porteur de costumes pour Armani ou pour n'importe quoi, invité dans des tas d'endroits extrêmement sophistiqués, très très chics, etc., où il rencontre des gens très très beaux et très très chics, qui sont par exemple des mannequins, des gens du show business, etc. Donc il y a comme ça toute une sorte de bulle, parce que cette bulle-là ne connaît finalement que les studios, ne connaît que les chemins qui les ont amenés sur une estrade, etc. Voir, parce que c'est pas un phénomène qui est négligeable, je ne sais pas, mais en tout cas qui existe, c'est les voies sectaires. On a parlé de rigorisme, de perfectionnisme, d'intransigeance. Une manière de contrôler sa vie peut être effectivement celle de la voie sectaire. Hein. Bon. En tout cas, de l'appartenance à un groupe qui va effectivement garantir ce souci de non-contamination. Voilà. Alors, Le sport est-il particulier ? Oui, parce qu'il y a un corps, il y a une usure, les carrières sont courtes et des marteaux. Hein. L'incertitude est consubstantielle. Bon, en quelque sorte, la remise en question est permanente. Le sport a une légitimité qui est faible. Je pense que ça, c'est un élément aussi qui est important. C'est-à-dire que on a beau dire que maintenant le sport est mieux reconnu, etc., mais très longtemps, il a une légitimité très très faible. Ce qui est effectivement, dans les processus de constitution d'une identité sportive, un élément de réponse très très fort, d'affirmer au contraire quelque chose de très très fort, et que le monde du sport a du mal à s'analyser. Alors quand j'ai le monde du sport, j'ai le monde du sport, là je ne parle pas des athlètes, mais je parle du monde sportif, des élus, des fédérations et de l'administration publique. C'est un monde, par exemple, contrairement au monde de la culture, qui s'analyse depuis 30 ou 40 ans, le monde du sport ne s'analyse pas. Et pourquoi il ne s'analyse pas ? Parce qu'il s'est pensé très longtemps comme une contre-société parfaite. Je reprends les termes de Georges Vigarello, de Bernard Jeu, la contre-société sportive, etc. Donc, voilà. Quand on est parfait, on ne s'analyse pas. On est bien et on est un modèle. Voilà. Alors, face à l'échec, donc, je laisse tomber, et les régulations, enfin, disons les sorties. Ben, là, je reprends le fil de ce qui avait été un petit peu préconisé. C'est l'idée de normalisation. Difficile, la normalisation. Mais par exemple, pour reprendre l'image de Dubé, dupe, pas dupe, de la même manière, la normalisation sportive, elle existe parce que je pense qu'effectivement, une partie des spectateurs ne sont pas dupes de ce qui s'y passe. Mais qu'à la limite, ils s'en foutent. C'est autre chose. Hein. On ne croit pas à la portée du sport. On y croit au moment où on le voit. Parce que c'est bien. Puis après, bon, Alors, quels sont les éléments sur lesquels peuvent s'appuyer des éléments un petit peu de changement de cette situation ? Bah, d'abord parce qu'il y a par exemple des écoles d'interprétation. Dans le monde du sport, il y a des gens qui pensent que être autonome, c'est plus efficace qu'être strictement contrôlé. Donc que l'abus sportif est très mauvaise pour la performance. Troisièmement, que le sport... j'ai mal écrit, c'est pas grave. Bon, que par exemple, les entraîneurs pourraient utiliser une définition de leur activité en tant que profession, et non pas profession en tant qu'elle est payée, mais en tant qu'elle suppose un code de déontologie. Bon. Comme par exemple être médecin, un code de déontologie. Bon. Que le sport soit reconnu comme travail, hein, pas comme on dit. Le sport, c'est de la passion. Hein. Oui, d'accord, c'est de la passion. Bon. Mais au bout d'un moment, le sport, c'est un travail. On le gère parce qu'il rapporte quelque chose à la société. Quelquefois, c'est vraiment de l'argent pour un joueur de football, mais quand c'est une médaille d'or, la société, elle est contente de dire qu'on a une médaille d'or. Donc, il travaille, il a une reconnaissance sociale. Donc, c'est bien travail, tant plus qu'effectivement, il travaille vraiment. Hein, on fait plus des 35 heures. Et puis, voilà. Et puis voilà, hein, comme ça, je dirais si pour faire un petit peu le truc, l'observation. Hein, j'étais tout à l'heure, c'est un monde qui ne s'observe pas. Je milite, Thomas Sébastien Floriel qui évoquait le cas, pour que le monde du sport s'observe un petit peu mieux sous toutes ses coutures. Psychologique, c'est bien démarré. Médical, ça démarre pas mal. Et je pense que sociologique, économique, historique, c'est pas mal non plus. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mignon, pour cette présentation enthousiaste. Vous avez effectivement montré.
Le micro à la main parce que sinon.
Vous avez effectivement donc insisté sur ce monde d'élite, sur cette bulle à la fois qui protège, qui est effectivement basée sur des normes, sur des limites, sur des interdits, sur une idéologie. On en a parlé tout à l'heure et qui peut bien évidemment aussi vulnérabiliser. Alors, je vais laisser la parole à mon confrère, peut-être qu'il va approfondir justement les aspects plus psychologiques à partir de sa communication intitulée. Je ne veux pas me prendre la tête.
Merci.
Allez-y.
Bien. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est simplement partager quelques expériences avec vous que j'ai vécues. Je vais beaucoup parler de mon implication dans le milieu du tennis. Depuis 1997, je suis rattaché au Centre national d'entraînement à Roland-Garros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que régulièrement, pendant l'année, je vais là-bas où s'entraînent des jeunes français et des moins jeunes, où sont tous les entraîneurs nationaux. Donc c'est un centre national d'entraînement. Je dirais même, c'est presque une ville en soi. Elle est très autonome. On peut faire plein de choses dedans, même passer une IRM s'il le faut. Et avec un organisme de formation, on s'occupe de la formation des joueurs, des joueuses et des entraîneurs. Donc ça peut être l'anglais, ça peut être la fiscalité. Par moments, c'était le yoga, la gestion du temps. Et aussi, il y a un module sur la gestion du stress. Il y a quelques années, j'ai fait venir aussi une psychologue femme, parce qu'il y a aussi, ça donne plus de choix, mais il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui s'entraînent là-bas. Je ne vais pas vous parler du dispositif, parce que ça va déborder le cadre. J'ai surtout envie de parler de ce qui se passe dans une institution comme ça, d'un point de vue très subjectif. Et c'est vrai, le tennis, c'est ni le badminton, ni le squash. Hier, j'ai appris que le produit Roland-Garros, c'est le troisième produit de luxe en France en termes de rentabilité, après Louis Vuitton et je ne sais pas qui était le deuxième. Ça veut dire que le tournoi, il génère tellement d'argent, au moins 60 millions d'euros qui vont dans les poches de la Fédé, qui fait que cette Fédé-là, du coup, tout au long de l'année, elle a 300 salariés. Par rapport à d'autres Fédés, c'est quand même beaucoup. Et on peut s'imaginer tout ce que ça implique aussi au niveau du marketing, etc. Alors, est-ce qu'il faut commencer par dire que c'est une fédération qui est aussi un peu dans sa bulle? Cette notion, au départ, elle ne me parlait pas trop. Être dans ma bulle, bon, certains, ça leur parle, c'est leur langage. Mais c'est vrai, c'est un état qu'on recherche en tant que sportif. Hein, c'est l'état second, ça arrive très, très rarement. Mais être dans sa bulle, ça peut être ça aussi, se concentrer, ça peut être se protéger. Je dirais même, parfois, ça veut dire que je m'isole, je m'enferme. Et c'est de ce contraste que j'ai envie de parler entre ce que ça peut apporter d'être dans sa bulle et aussi les inconvénients de cet état-là. Alors, je disais, le tennis, c'est un sport riche, si vous voulez. Très tôt, vous avez 11-12 ans, vous faites partie des meilleurs. C'est les premiers contrats qui tombent. Un équipementier, une marque de raquettes, etc., etc. On parle beaucoup de l'assistanat. D'ailleurs, on est dans un pays où il y a quand même un peu d'assistanat. Moi, j'entends souvent des gens dire « si je ne suis pas remboursé, je ne vais pas voir le médecin ». Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est vrai que c'est une organisation, et là je reviens au tennis, où on vous donne beaucoup, sans être sûr quel est votre désir, quel est votre projet. Et en revanche, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à rendre, à s'investir. Est-ce que ce n'est pas leur projet? Est-ce que c'est le désir des entraîneurs ou des parents? En même temps, je me dis, c'est un sport où on est tout le temps entouré. Hein, les meilleurs joueurs français, ils manquent de rien, on s'occupe de tout, ils sont pris en charge, nourris, blanchis, etc. Sauf que le seul moment où ils sont vraiment seuls, c'est pendant la compétition. Et là, certains manquent vraiment de repères. Et je trouve que ce n'est pas par hasard qu'il y a un décalage entre cette prise en charge d'ailleurs, et le manque de repères en compétition. Alors, une fois, il y a 7-8 ans, j'avais dit au directeur technique national, mais comment je peux aider un athlète si mon travail est gratuit? Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que certains, et en plus ils ont les moyens, s'impliquent au moins symboliquement? Donc, à l'époque, c'était 20-25% de la prise en charge totale. Et qu'est-ce qui se passe quand on leur enlève cette gratuité? Je crois que vous avez la réponse. Hein. Évidemment, il y avait beaucoup moins de joueurs et d'entraîneurs qui venaient. Maintenant, ceux qui venaient, au moins, ils savaient pourquoi ils étaient là. Alors, je dis assistana, je dis on leur donne beaucoup. Et les mêmes gens qui leur donnent beaucoup leur demandent ensuite d'être autonomes. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec le docteur Ardelin, c'est un slogan à la mode, il faut être autonome. Encore faut-il savoir qu'est-ce que ça veut dire. Encore faut-il savoir à quel point est-ce qu'on laisse ces athlètes-là s'épanouir, se construire, à quel point on leur laisse cet espace-là, je dirais même les moyens de penser, de s'exprimer. C'est un peu l'idée de la double contrainte. Hein. On te donne tout, mais tu t'occupes de rien. T'as pas besoin de penser. Or, on pourrait penser quand même que ça peut les aider à développer leur identité avant tout, pour que ça ne devienne pas une identité simplement de sportif. Et Dieu sait qu'il y a plein de joueurs qui s'entraînent à Roland-Garros. Sur Paris, ils connaissent que les Champs-Élysées. Alors, je ne dis pas que la veille d'une compétition, il faut aller dans un musée pour se détendre ou dédramatiser, mais voilà, on est déjà un peu dans l'idée du conformisme. Et après, vous prenez une fille comme Amélie Mauresmo, qui à 18 ans décide de se prendre en charge, de dire « maintenant je passe à un autre mode de fonctionnement, je deviens même ambassadrice de mon propre projet, je vais payer mon entraîneur, je suis allé chercher celui-là, parce que c'est ma conviction que j'ai envie de défendre ». Effectivement, cette fille aujourd'hui, elle dépense 3 fois plus que toutes les autres joueuses parce qu'elle fait voyager avec elle son kiné, son entraîneur. C'est elle qui paye tous les frais, le vol, hébergement, la bouffe, etc. Mais c'est elle aussi qui gagne 3 fois plus que les autres, comme par hasard. Donc, s'autoriser déjà de sortir de cette bulle, d'aller voir ailleurs, de s'ouvrir, de travailler en pluridisciplinaire, on va y revenir. Je dirais même de se remettre en question. Et remettre aussi en question l'autorité. Sinon, nos institutions, elles vont encore produire des bons élèves qui sont là pour être conformes à ce qu'on leur propose. Et la dernière blague que j'ai entendue à Roland-Garros, c'était il y a quelques jours, et elle circule en plus entre entraîneurs. Elle dit, comment est-ce qu'on reconnaît un jeune joueur français qui est formé dans nos pôles quand il est en tournoi ? Et donc, la réponse, c'est ils disent 10 fois par jour bonjour à la même personne parce qu'ils ont appris de dire bonjour. Donc là, on est aussi dans le formatage, évidemment. Mais j'ai plutôt envie de parler de l'identité parce que dire, OK, il faut être autonome, oui, mais comment faire ? Très jeunes, les joueurs de tennis sont très fixés sur le classement, hein, un système qui n'existe pas non plus dans tous les pays. Et deux jeunes joueurs qui se rencontrent, c'est quoi leur première question ? T'es classé combien ? T'es combien ? Comme si le classement résumerait leur identité. Or, on pourrait penser qu'on peut déjà jeune apprendre à savoir ce qu'on sait bien faire. Avoir un jeu d'attaquant, d'être audacieux, de respecter l'adversaire, etc. Et on entend aussi une autre chose, maintenant parmi les joueurs un peu plus titrés même, ils parlent beaucoup, j'ai des points à défendre. J'ai des points à défendre, sous-entendu, j'ai la pression, il faut que je joue bien, sinon je vais descendre au classement. Mais parfois on a quand même envie de leur poser la question, qu'est-ce que tu as envie de défendre autrement que des points ? Une conviction, une relation avec un entraîneur, une religion. Alors, est-ce qu'on est obligé de penser à Mohamed Ali qui a accepté pendant, je ne sais pas, 18 mois de ne pas boxer parce qu'il a dit « les Viet Cong, ils m'ont rien fait, pourquoi j'irai faire la guerre du Vietnam ?» Moi, j'ai pensé à une autre personne que vous connaissez tous, Roger Federer, qui... vous le savez aussi, très jeune, il était tout sauf ce qu'il est aujourd'hui, hystérique sur un court, il jetait sa raquette, d'ailleurs comme Bjorn Borg, qu'on appelait plus tard Ice Borg. C'est des joueurs qui ont appris à mieux se canaliser, mais à 15-16 ans, leur entraîneur lui a dit « si tu continues comme ça, t'arrêtes ». Et Federer, il avait un entraîneur, un Australien, Peter Carter, qui lui disait tout le temps « vas-y, essaie de te contrôler, tes émotions, sois calme, etc. » Évidemment, ça entrait par là, ça sortait pas là, jusqu'au jour où cette même entraîneur se tue dans un accident de voiture à 25 ans. Donc ça, c'était il y a 5 ans, je crois, 5-6 ans. Et comme par hasard, la suite, vous la connaissez, Federer, il a pris ses mots, maintenant il s'est dit, je ne peux plus continuer à être un joueur émotif comme je l'étais. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de rendre hommage à cet entraîneur-là. Et derrière, évidemment, il a gagné tout ce qu'il a gagné. Maintenant, je ne vais pas faire un raccourci pour vous dire c'est à cause de ça, mais c'est surtout l'idée qu'il faudra retenir qu'il y a autre chose à défendre que des points dans une vie. Et je dirais même, pour conclure cette première partie, bah, quand on sait qui on est, ce qu'on sait bien faire, qu'on soit sportif ou autre, on est très difficile à déstabiliser. Quand on a réfléchi, quand on a envie de se prendre la tête pour savoir qu'est-ce que je sais bien faire, quels sont mes points faibles. Maintenant, on l'a entendu et Marc l'a dit tout à l'heure, bah, il y a un assèchement de l'expression verbale. Hein, on évolue quand même dans un milieu où il y a beaucoup de clichés, je reviendrai, mais Vous êtes mieux placé que moi pour entendre tout au long de la journée des sportifs qui vous disent « je suis stressé, je n'ai pas confiance en moi », sans essayer d'élaborer ce qu'il y a derrière. Or, un joueur de tennis pourrait très bien, et ça serait une hypothèse de travail d'ailleurs, faire la chose suivante, accepter d'être un peu plus précis, chercher à être plus précis dans les mots qu'il utilise pour dire ce qui lui arrive, et peut-être qu'il aura aussi plus de chances à être précis dans son geste à ce moment-là. Alors, je pense à tous ces joueurs-là qui n'ont pas encore compris cette idée-là. C'est une question d'intelligence, de maturité, de plein de choses, qui ne veulent pas se prendre la tête. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont peur de travailler sur leurs points faibles ? Voilà. Est-ce qu'ils ont peur de passer de « je suis stressé » à « tiens, c'est vrai, je suis stressé à quel moment ? C'est vrai, mon père, il a tellement investi en moi. » Chaque fois quand il vient me voir jouer, j'ai peur de le décevoir, du coup je veux trop bien faire, je surjoue, résultat je me mélange les pinceaux. Vous êtes d'accord, c'est déjà un peu plus précis que de dire je suis stressé. Et on l'a vu aussi tout à l'heure, le stress, la pression, bah, c'est des mots un peu fourre-tout. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais peut-être une autre fois. Donc je crois que c'est important que ces athlètes-là comprennent que l'instinct ou la superstition ne peuvent pas résoudre tous leurs problèmes. Et à ce moment-là, j'ai envie aussi de poser la question de leur entourage, je dirais même de la qualité pédagogique de leur entourage. Là, je pense aux parents, je pense aux coachs, peut-être à des dirigeants. Eux aussi, par moments, ils sont dans leur bulle. C'est facile de parler des sportifs et dire oui, ils ne sont pas matures, ils ne sont pas intelligents. Et quand je dis intelligence, évidemment, je ne parle pas du quotient intellectuel. Vous mettez un micro à Zidane, ce n'est pas la même qualité de speech. Mais ces gens-là, ils ont tellement d'autres formes d'intelligence, de vision, d'intelligence du corps, ou peut-être de la relation, de la discipline, qui sont beaucoup plus importantes. Alors, on peut parler des parents, des entraîneurs, évidemment, qui sont aussi un peu dans leur bulle, dans leur monde, qui ont leurs convictions, leurs incertitudes, leurs peurs. C'est des gens qui transmettent non seulement leur savoir-faire, mais parfois aussi leur nervosité, leur enfermement dans des clichés. Alors, Marc a dit qu'il y a un assèchement de l'expression verbale. Moi, parfois, c'est vrai, quand j'entends les mêmes clichés tout au long de la journée, « fais-toi plaisir, concentre-toi », il faut se lâcher. Est-ce que ce n'est pas un peu si on demande à un artiste d'être inspiré, là, tout de suite ? Je pense à une anecdote avec Cédric Pioline. Il jouait je ne sais pas quel tournoi et son entraîneur lui répète pour la énième fois « Allez, allez !» Et Cédric, il se retourne et lui dit « Oui, mais allez où ?» Donc c'est vrai, c'est des clichés qui sont finalement faciles à détourner, à déstabiliser. Pareil pour le fameux faire le vide, il faut faire le vide. Moi j'ai envie de demander faire le vide de quoi ? Et là on est déjà dans le thème de la connaissance de soi, de mes pensées parasites qui m'empêchent d'être dans le moment présent, etc. Pareil, un thème qui mériterait d'être approfondi, mais c'est un enfermement dans des clichés et je dirais, ça renvoie aussi, tout à l'heure on l'a entendu, à la formation des entraîneurs. Est-ce qu'ils ont appris à sortir de ces clichés-là ? Est-ce qu'ils ont appris à mettre des mots sur le ressenti ? Est-ce qu'ils prennent des notes ? Tant mieux s'ils le font, mais je crois que le vrai travail de la formation continue des entraîneurs, c'est aussi leur qualité managériale, c'est aussi leur cadre de travail qui mérite à être formalisé par moment, leur supervision, on pourrait l'appeler aussi l'analyse de leur pratique professionnelle. Et comme par hasard, dans le tennis, on entend très rarement le mot « éducateur ». C'est avant tout des moniteurs et très vite ils deviennent entraîneurs. Or, dans des milieux comme la boxe ou le football, le mot éducateur, il a toute une autre valeur. Bon, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que dans le milieu de la santé publique, ça fait déjà 20 ans que vous avez réfléchi sur ces questions-là. Or, en tennis, un entraîneur peut partir 3-4 semaines à l'autre bout du monde avec un mineur sans avoir de soutien, sans avoir de repères, de référents, et Dieu sait qu'il se passe des choses dans ces endroits-là. Bien, alors, j'avais aussi envie de penser à cette fin de carrière dont vous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle devient, cette bulle, finalement, une fois la carrière terminée ? Est-ce qu'on peut se la recréer ? Est-ce qu'il faut passer à autre chose ? Qu'est-ce que devient ce repère protecteur, si vous voulez ? Moi, je vous cache pas que récemment, le médecin de la Fédération française de tennis, Bernard Montalvan, il commence à m'envoyer, entre guillemets, des anciens joueurs qui ont arrêté depuis déjà un bon moment, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, et qui tout d'un coup, c'est peut-être un peu le retour du boomerang, mais qui se posent des questions quasi existentielles, qui ont des problèmes de couple, qui se réveillent, qui se disent, tiens, peut-être que dans la vie, il y a autre chose que vivre sur mon image. Donc cette bulle-là, évidemment, même si elle vous protège, elle peut aussi vous rendre fragile. Une fois que vous avez fait le fameux aéroport, hôtel, compétition, voilà, il y a les sportifs qui en profitent, qui voient ça comme une occasion, qui vont visiter à New York quelque chose. Et pour ces derniers, on n'a pas trop besoin de se faire de soucis, je crois. Or, il y en a d'autres, et je ne parle même pas des relations de dépendance et d'emprise, qui vont perdre beaucoup de choses dans cette bulle. Bon, je crois qu'il est temps de conclure, parce que c'était une longue journée. C'est une journée où on a parlé d'excès, de marginalité, de risque, d'excellence, d'exemplarité, d'élitisme. Moi, j'ai simplement envie de finir avec une question. Donc, j'avais envie de partager quelques réflexions, quelques idées avec vous. Inutile de vous dire que chaque fois que je peux échanger avec un médecin, un kiné, un préparateur physique ou avec d'autres personnes, les choses avancent, surtout quand on regarde dans la même direction. Après, il y a aussi des couples entraîneurs-entraînés, et on peut en débattre tout à l'heure, qui sont dans une bulle, qui regardent dans la même direction, mais par moments, ça ressemble plus à un délire qu'à autre chose. Donc voilà l'idée du travail pluridisciplinaire, s'ouvrir, aller vers l'autre. Et du coup, on n'est plus dans le tout ou le rien, on n'est plus dans la toute-puissance ou la dépression. Et je m'arrêterai sur cette question-là. Comment trouver l'équilibre dans ce déséquilibre et finalement, sans tomber dans le piège d'être conformiste, parce que c'est l'institution qui souvent le suggère. Je vous remercie et je crois qu'il y a encore un peu de temps pour le débat.
Merci beaucoup, Monsieur Chamalidis, pour cette intervention très riche, sur le plan aussi, je dirais, clinique, parce qu'il y a des illustrations qui étaient tout à fait pertinentes. Pour lancer un peu le débat et par rapport à ce que vous avez dit, et ce que j'ai aussi entendu dans votre discours, Monsieur Mignon, c'est aussi, on n'en a pas parlé, me semble-t-il, c'est aussi l'importance des parents, c'est-à-dire l'influence, effectivement, des parents dans la pratique sportive des enfants. On a parlé effectivement des entraîneurs, des coachs, voire même des parents qui deviennent coachs, qui deviennent entraîneurs. Et là, effectivement, on peut s'interroger sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire cette notion comme ça de faire quelque chose pour soi réellement. Où est finalement le choix de l'enfant ? Est-ce que l'enfant a véritablement le choix vis-à-vis de cette pratique sportive? Est-ce que cette prise de décision n'est-elle pas factice, artificielle, n'est-elle pas conditionnée par un environnement qui peut être celui des parents, avec des éléments comme ça de type désir, je dirais, avorté comme ça de réussite sur le plan sportif, mais c'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Vous avez fait une analogie, enfin, depuis toute la journée, on a fait aussi des analogies entre ce qui se joue comme ça dans le domaine sportif, ce qui se joue dans le domaine plus domaine de la musique. Est-ce que cette notion comme ça de réussite un peu par procuration, c'est pas des éléments comme ça, une problématique, on va dire, que vous avez retrouvé ou que vous retrouvez, vous, par exemple, chez certains de ces jeunes tennisman? On a en tête comme ça, enfin, des exemples de joueuses dont finalement l'entraîneur était l'un des membres de la famille, avec qui ça s'est pas forcément très bien passé.
Il y a aussi beaucoup de contre-exemples de familles où ça s'est très bien passé. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par ces bancs-là, qui ne voulaient pas faire médecine au départ. Et la question se pose aussi en dehors du tennis. Sauf que c'est vrai, vous savez comment le père Williams a décidé de faire deux enfants. Vous connaissez l'histoire. C'était dans les années, fin des années 70. Il est dans sa voiture et il entend que telle joueuse vient de gagner un tournoi et elle repart avec un chèque de, à l'époque, c'était, je sais pas, 50 ou 100 000 dollars. Il dit, je ne vais pas faire une gamine, je vais en faire deux pour faire numéro un et deux mondiales. Et lui, il a fait tout à l'envers et il a réussi. Alors, qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi son pari. Est-ce que les filles sont équilibrées? Je ne sais pas, mais la question, on peut aussi se la poser
bien
comme
sûr.
Ça. Et ça, c'est des exemples qui se font hors institution, comme la plupart des réussites sportives.
D'accord.
Sur la généralisation, enfin sur le fait de savoir si c'est... Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des carrières sportives qui sont contrôlées par an, dans un certain nombre de cas. Où ceux qui vont... quelque sorte imposer d'avoir toujours une voie de sortie, ils vont être les parents. Donc il faut faire des preuves dans le domaine du sport pour montrer que ça ne contrefère pas les études, pour qu'effectivement il y ait... Bon. Mais sinon, il y a un autre aspect qui est plus général, c'est-à-dire c'est la transformation, enfin la transformation. Oui, la transformation, disons, de la cellule familiale. On peut parler de réussite par procuration, mais aussi, on peut aussi parler, je dirais, du sens, alors, pas nouveau, mais disons peut-être exacerbé que prendre la famille comme cellule collective d'action dans la société. C'est-à-dire que c'est la famille, il y a un article américain appelé 3F, parce qu'en anglais ça fait 3F, ça fait family, friend, firm. C'est-à-dire la famille, les amis, l'entreprise. Bon. Donc comment, je dirais, la réussite dans la société, par exemple, repose sur l'articulation entre ces trois dimensions. C'est-à-dire, si on est une firme, c'est être une firme appuyée sur la famille parce qu'il y a des fidélités, avoir des amis parce que c'est du réseau qui permet de mobiliser des ressources, etc. Mais éventuellement, les trois peuvent se réunir dans une même entité. Donc ça c'est aussi bon, une forme, une transformation, si on veut, de la façon dont une entité sociale, la famille, va concevoir la manière de se situer, de faire réussir sa progéniture, qui est bon, quelque chose finalement d'assez classique. Hein. Une famille, bon, elle investit dans ses enfants pour réussir quelque chose. Donc là, on a une forme d'investissement très fort avec... projection économique, utilisant les compétences des parents, anciens entraîneurs, réseaux sportifs, etc.
Non, bien évidemment, c'est effectivement naturel de projeter sur ses enfants. Là, vous prenez l'exemple comme ça de cas assez exceptionnel quand même. Mais c'est vrai que moi, dans ma pratique, j'ai été amené malheureusement à rencontrer des jeunes, c'était effectivement dans certains types de sports, qui effectivement s'effondraient sur le plan psychopathologique. Et que cet effondrement psychopathologique était lié à une pratique sportive finalement intensive, conditionnée par, on parlait d'idéologie tout à l'heure, une sorte d'idéologie comme ça à la fois sportive mais aussi familiale, avec des bénéfices secondaires qui étaient d'ailleurs des bénéfices surtout du côté des parents, avec vous connaissez, hein, avec la triade qu'on retrouve dans le syndrome de réussite par procuration, c'est-à-dire une sorte de pseudo-altruisme, c'est-à-dire vouloir effectivement faire les choses pour le bien de l'enfant ou le bien effectivement de l'athlète, mettre effectivement l'enfant dans des conditions malheureusement de maltraitance, c'est-à-dire malgré les blessures, la maladie, continuer les entraînements, hein, et puis cette notion effectivement d'instrumentalisation. Donc il y a effectivement, moi c'est vrai que je suis professeur en psychopathologie, donc j'ai ce volet-là, mais c'est effectivement des éléments qui sont très importants à pouvoir repérer, même si ça reste bien entendu minoritaire et surtout pas limité au domaine du sport. Ça se retrouve effectivement dans tous les domaines académiques et c'est vrai que cette pression comme ça, sociétale vis-à-vis de la performance, ça ne fait sans doute qu'accentuer hein, ce type de dérive, même aussi dans le domaine académique et surtout académique.
Ma question s'adresse à Monsieur Jamalidis. J'ai l'occasion aussi de travailler avec des jeunes sportifs qui pratiquent le tennis. Il y a une étude qui a été faite en collaboration avec la faculté de STAPS de Tarbes sur l'implication parentale dans la pratique sportive de l'enfant. Et dans cette étude, il a été montré qu'il y a une forte implication des parents dans le domaine du tennis. Moi, j'observe que les jeunes avec qui je travaille, qui pratiquent le tennis, la plupart des parents n'ont pas une activité de joueur de tennis. Vous, est-ce que vous avez une observation clinique sur une implication forte des parents dans la pratique des joueurs de tennis? Et si vous en avez une, est-ce que vous pouvez l'exposer, cette observation clinique?
Alors, je dirais, on n'est pas obligé d'avoir joué au tennis pour aider son enfant à progresser et faire une belle carrière. Tout à l'heure, on a entendu qu'il faut aussi avoir d'autres qualités, je dirais même managériales. Moi, je vois plein de parents qui connaissent le tennis, comme on dit, mais dès que leur gamin perd deux fois de suite 6-3, 6-2, il remet tout en question. Ben pour moi, ça veut dire qu'il y a absence d'un vrai projet, il y a absence d'un plan. Et je vois aussi des parents qui ne connaissent pas grand-chose au tennis, mais qui savent s'entourer, qui savent déléguer. Ensuite, cette année, on a fait une expérience intéressante avec un groupe de parole dans une ligue pour les parents, avec un ou deux entraîneurs. Et il y a des gens, au fur et à mesure, c'était 6 rencontres dans l'année, mais il y a des gens qui ont évolué. Évidemment, il y avait les parents qui pensent tout savoir, mais ils viennent quand même pour avoir la recette magique, on ne le voit pas la deuxième fois. Il y a les parents qui sont là pour écouter. Et il y a des parents qui se positionnent, mais leur positionnement peut bouger. Au départ, c'est « j'y connais rien en tennis, donc je reste à ma place ». Mais au fur et à mesure, on apprend quand même que le dimanche, je deviens entraîneur. Et ces parents-là, oui, ils ont besoin aussi d'être accompagnés, peut-être même soutenus par moment ou informés. Tout se joue dans ce triangle-là de la bonne distance entre les générations, mais aussi entre l'entraîneur. Je connais des cas, et ça, ce n'est pas un secret. Il y a plein, même des très, très bons joueurs, où le joueur faisait son entraînement avec l'entraîneur, et tout de suite après, le père allait le re-entraîner. Donc vous pouvez être le meilleur entraîneur au monde, il suffit que le gamin rentre chez lui, il entend un autre discours, parfois même un discours opposé, et le conflit est déjà là. Donc je réponds partiellement à la question parce qu'on peut ouvrir plein de tiroirs, mais je dirais, quand on a un vrai projet familial, parce qu'on ne peut pas dire à 13-14 ans, ou c'est très rare en tout cas, que c'est le projet du gamin ou de la gamine, encore une fois, tout se joue sur la qualité de l'entourage.
Est-ce que vous pouvez observer, moi j'ai tendance à pouvoir observer ce phénomène, qu'au sein de la fédération ou d'un club particulièrement tennis, il y a aussi le souhait des dirigeants d'intégrer les familles dans le projet sportif de l'enfant, et finalement ça devient, au-delà d'une institution sportive, une institution familiale, où les entraîneurs peuvent solliciter la présence des parents sur des tournois, alors qu'à la base, dans d'autres sports, on n'observe pas forcément cela, ou organiser des manifestations autour des compétitions sportives de l'enfant pour intégrer les parents dans le projet sportif de l'enfant. Est-ce que sur le centre d'entraînement de Roland-Garros, c'est quelque chose que vous observez ?
Alors, si vous tombez sur un entraîneur qui voit ce qu'il a gagné à travailler avec les parents, ça peut marcher. Maintenant, ce n'est évidemment pas le cas de tous les entraîneurs. Il y a même une tendance récemment à se dire, tiens, c'est la faute des parents. Ils sont trop présents, envahissants. Plutôt que de sortir de sa bulle pour s'ouvrir, pour dire, là, je ne comprends pas. On a parlé d'analyse des pratiques professionnelles. Ils restent dans leur coin. Et souvent, ils se font marcher même dessus par les parents, à tort ou à raison. Mais je trouve que c'est un peu trop facile d'être dans la plainte et dire, oui, les parents, on n'arrive pas à les canaliser, ils font ce qu'ils veulent, ils nous prennent comme des mouchoirs, quand ils n'ont plus besoin de nous, ils nous jettent. Ces questions-là méritent d'être abordées, encore une fois, dans un cadre pluridisciplinaire, et à ce moment-là, on trouve plus facilement des solutions.
Ma question vise davantage Patrick Mignon, mais évidemment, elle n'exclut nullement Makis Chamaldis. Alors, j'étais très, très intéressé par ce que tu as présenté, ne serait-ce que parce que c'est dans la continuité du débat d'aujourd'hui. Toutefois, je me pose la question suivante, à savoir que le thème de ta réflexion, sous la forme de l'interactionnisme, je pense, était de savoir comment ce petit monde fonctionne. Or, en t'écoutant, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas un petit monde, mais que s'en sont plusieurs, et qu'éventuellement, un petit monde en génère un autre, qui est peut-être pas plus petit par la taille, mais plus important par le symbole. Donc, mon problème, c'est comment s'articulent ces différents mondes, comment éventuellement ils entrent en conflit les uns avec les autres, et comment ici le sujet, donc en l'occurrence le sportif de haut niveau, trouve son identification.
Oui, tu as tout à fait raison de mettre le doigt là-dessus, parce que quand on dit le petit monde du sport de haut niveau, bien évidemment, on doit, et de manière rigoureuse, on doit intégrer différents types d'acteurs dans l'affaire. Hein. Les athlètes, les entraîneurs, les organisateurs, une partie des médias, etc. Bon. Donc ça nous fait un monde qui trouve, dans certains cas, un certain nombre de compromis. Et dans d'autres cas, qui sont des univers en concurrence. Ce sont des univers en concurrence. Par exemple, des univers en concurrence, si on prend le cas de la concurrence qui va exister dans ce monde du haut niveau, entre, par exemple, les attentes, c'est une espèce de grand classique, entre la dimension technique de l'activité sportive et sa dimension politique. Politique au sens où l'autre aspect du sport de haut niveau, c'est aussi une gestion politique des fédérations et des mandats électoraux et des choses comme ça. Et donc, on a effectivement des concurrences très fortes. Donc on est bien dans un univers dans lequel non seulement on a des compromis et des collaborations nécessaires, mais on a aussi des concurrences. On a des concurrences parce qu'il y a des enjeux aussi de pouvoir et d'autorité. Et bien évidemment, quand la métaphore comme ça du monde social, c'est aussi une métaphore qui peut avoir un avantage, c'est celle un petit peu de la fluctuation de ses frontières. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut dire qu'à un certain niveau dans le fonctionnement du sport d'élite, il y a des univers du sport d'élite qui basculent dans un autre monde, qui n'est pas un monde du sport, qui est un monde qui est par exemple le monde des médias, mais ce monde des médias et ce monde du sport, je veux dire, il s'inscrit dans un monde un peu plus large, qui est le monde de la célébrité, c'est-à-dire celui de la gestion des réputations, de la réalisation de la célébrité, de la manière dont on rentabilise la célébrité acquise. Donc effectivement, c'est pour ça que les approches trop rigoureuses, par exemple quand on parle d'idéologie sportive, sont compliquées, parce que l'idéologie sportive, elle a un sens complètement différent selon qu'elle est portée par les techniciens ou qu'elle est portée par les élus d'une fédération et qu'elle est portée par les sportifs. Bien évidemment, ce sont bien effectivement des contradictions, des tensions entre différentes conceptions de l'activité, ces conceptions se résolvant dans des compromis ou dans des rapports de force. Et dans le fait qu'on se soumet ou qu'on cherche une autre voie. Et là, je veux dire, on a toutes les recompositions qu'on va être amené à faire dans le choix des entraîneurs, dans la structure qui est la plus adéquate pour ma réussite si on est du point de vue de l'athlète, mais qui se posera différemment si on est entraîneur ou si on est fédération. Donc on est effectivement dans quelque chose qui va nous faire toujours jouer entre du plus petit, parce que si on veut s'intéresser effectivement à l'athlète lui-même, on va l'analyser du point de vue de l'athlète et par exemple de la restriction de son univers à un univers strictement d'athlète. On a ce type dans lequel effectivement le rapport au monde extérieur, c'est le rapport avec l'entraîneur, par exemple, enfin, qui n'est pas tout à fait extérieur, mais qui sera le seul. Et par contre, on va avoir d'autres modes de fonctionnement dans lesquels les gens vivront effectivement dans plusieurs mondes, sport et autre chose.
Bien, je voudrais poser une question à tous les trois, et je n'ai pas d'autres compétences que d'avoir été abonné à l'équipe entre l'âge de 12 ans et 14 ans. Est-ce que la maltraitance n'est pas inéluctablement la norme de la formation des sportifs de haut niveau, plutôt que quelque chose de minoritaire? Je pense à quelques phrases. Je me souviens d'un professeur d'anglais qui me racontait ce que disait un entraîneur de demi-fond pour les Jeux Olympiques des années 50, du style « un grand coureur n'a pas peur de la mort ». Et donc, il faut quel type d'apprentissage pour ne pas avoir peur de la mort? Est-on soumis? je pense effectivement au terme de maltraitance un petit peu au sens de Alice Miner, c'est-à-dire et ne pas, enfin, justement, être à l'écoute des attentes des autres au prix, je dirais, de devenir sourd sur l'écoute de ses propres sentiments. Donc c'était un peu, voilà, c'était une question parce que j'avais l'impression que vous présentez cela comme étant un peu minoritaire alors que j'ai l'impression que c'est la norme.
Bon, ça c'est-à-dire, on peut faire état d'observations dans lesquelles certains entraînements ressemblent beaucoup, quel que soit le type de personne à laquelle on s'adresse, qui peut être des très jeunes filles, par exemple, qui peut être des jeunes adultes dans d'autres cas, qui font beaucoup penser à l'entraînement qu'on voit au cinéma des Marines, ou qu'on a pu connaître enfin, quand on a fait service militaire, pour ceux qui ont encore fait cette chose dans leur vie et qui ont passé effectivement par quelques-unes des étapes dans lesquelles on passe au service militaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, il y a un endurcissement, il y a une obéissance, qu'il y a des choses que la personne ne peut pas savoir. Et que la réussite, au bout du compte, le bon sens posé le problème de savoir qui va réussir, hein, c'est l'entraîneur qui se fait plaisir ou c'est l'athlète, passe nécessairement par, effectivement, alors, ce qu'on peut appeler une maltraitance, au sens où il n'y a pas de parole accordée à la personne à laquelle on s'adresse, et il y a un schéma, un schéma qui consiste à considérer que la réussite passe par l'acceptation. Alors, tout à l'heure, le sacrifice, l'endurcissement, etc. Donc, je pense qu'actuellement, on est en train de... en dehors de l'enquête là, qui sera présentée demain, c'est une question qui commence aujourd'hui à sortir. Parce que c'est vraiment très problématique.
Oui, parce qu'au-delà du point de vue moral, je dirais que, et je termine juste en tant que sportif de devant la télévision, c'est vrai qu'avec cette maltraitance qui semble aller de pair avec ce conformisme dans ces bulles, il y a aussi, et là je vais parler en spectateur naïf, cette disparition d'histoire que je ne trouve plus effectivement dans le spectacle du sport, d'histoire individuelle liée au vélo, qui risque aussi de compromettre d'une certaine manière ce qui faisait le plaisir du sport, alors là en tant que spectacle que l'on regarde, auquel on s'identifie.
Disons que là on est un petit peu dans le, enfin là on aurait un effet de ce que signifie la nouvelle vague de médiatisation. La médiatisation n'est pas un phénomène nouveau, elle est consubstantielle, la nouvelle vague de médiatisation repose sur des ressorts qui ne sont pas les ressorts sur lesquels reposait une certaine forme d'accompagnement du sport qui se traduisait donc effectivement par ce qui se continue d'ailleurs, il y a toujours ce maintien, mais je veux dire parce qu'il y a multiplication des événements sportifs, parce que la façon dont ils sont mis en scène valorise plutôt en fait même l'immédiateté du spectacle qu'on regarde, il tend à faire contrebalance, enfin disons à contrebalancer ce qu'était le spectateur cultivé ou expert qui regardait le foot, le rugby, le cyclisme parce que lui-même ou parce que etc. il avait toute cette mémoire qui était transmise, à être marginalisé par rapport disons à un pur spectateur d'une émotion retransmise, enfin d'une émotion promise, mise en scène par les grands médias aujourd'hui.
Bien, monsieur Chamalidis, là, sur la question de la maltraitance.
Je vais renvoyer à vous, parce que demain, il y a toute une demi-journée qui est consacrée à ce thème. J'espère que vous pourrez revenir demain.
Très bonne réponse. Donc, à demain.